Thibaut de Saint-Maurice, professeur de philosophie de son état, quelle est votre ordonnance philosophique pour devenir un bon élève?
Eh bien, Aline, ordonnance à base d'un traitement à partir de l'autorité. Mais alors, pas n'importe quelle autorité, celle du savoir. J'ai bien l'impression que ces dernières années, et je soumets ça à la discussion autour de la table, j'ai bien l'impression que ces dernières années, les élèves doivent affronter une nouvelle difficulté, celle de la démultiplication et de la dispersion des discours et des sources de savoir. En clair, le monde numérique dans lequel nous sommes entrés depuis 20 ans et qui est à la portée de pouce des élèves, est un monde dans lequel la parole d'un enseignant, d'un professeur, est mise au même niveau que celle d'un youtubeur, d'un journaliste ou de Pierrot75, vous savez, qui a laissé un long commentaire. Toutes ces paroles peuvent être très intéressantes et contribuer évidemment au débat, mais toutes ces paroles recouvrent aussi parfois la parole des professeurs. Alors, comprenez-moi bien, le monde numérique est un monde formidable avec de nouveaux moyens pour apprendre et pour découvrir, mais ce monde numérique, il a aussi un peu les défauts de ses qualités. Il est un monde qui rend plus difficile la distinction du savoir pour des élèves qui sont sollicités de tous les côtés.
Alors mon cher Thibaut, quel est votre traitement pour aider les élèves à devenir de meilleurs élèves dans ce monde-là?
Alors c'est un traitement qui s'adresse aux élèves mais aussi aux parents, voilà, et qui s'appuie sur le concept d'autorité tel que la philosophe Hannah Arendt le présente dans son texte intitulé La crise de l'éducation. Alors pour Arendt, la transmission du savoir, eh bien, a besoin d'autorité. Alors attention, c'est pas l'autorité type estrade, coup de règle sur les mains et punition de 500 lignes. Non, le savoir a besoin pour être transmis de se voir reconnaître une autorité sur les autres types de discours. Et c'est en ce sens qu'il faut parler de l'autorité des professeurs. En ce sens, le bon élève ou l'élève modèle, c'est d'abord celui qui accepte l'autorité de ses professeurs. Et encore une fois, c'est pas une question de soumission à un pouvoir. Non, cette autorité, en fait, précisément, elle veut dire trois choses. D'abord que l'élève reconnaît que son professeur en sait plus que lui. Voilà, c'est pareil, peut-être la base, mais bon. Ensuite, que l'élève accepte de recevoir ce discours. Et enfin, que l'élève reconnaisse que le discours du professeur n'est pas une opinion relative, glanée sur un forum, mais un savoir scientifiquement constitué. Alors c'est assez simple, au fond le bon élève, quelles que soient ses notes ou sa capacité de travail, etc., le bon élève c'est d'abord celui qui accepte que le savoir de son professeur puisse faire autorité sur les autres discours. Mais soyons précis, je dis bien que c'est l'autorité du savoir du professeur et non pas l'autorité du professeur lui-même, parce que là, on a le droit de ne pas aimer tel ou tel prof, on a même le droit de trouver que ce n'est pas un très bon prof, qu'il explique pas très bien, qu'il est mal habillé, qu'il sent pas bon, qu'il est trop sévère. Bref, il est tout ce que vous voulez.
C'est pas un autoportrait, j'espère.
Non. N'empêche, le diagnostic est finalement assez simple et toujours le même. Si vous voulez réussir à l'école, la première condition, c'est de reconnaître a priori la légitimité et l'autorité du savoir qui y est transmis. Alors toute la difficulté, c'est que ce traitement de la reconnaissance de l'autorité n'est vraiment efficace qu'avec un environnement favorable. Encore faut-il plus largement que les élèves grandissent dans un environnement politique, social, familial, qui les aide à reconnaître cette autorité du savoir. Et c'est pour ça aussi que cette reconnaissance concerne donc les parents. De ce point de vue, l'élève modèle est aussi celui qui a des parents modèles. Des parents qui respectent et reconnaissent l'autorité du savoir transmis.
Réaction Anouk F.
Oui, j'allais justement dire, il est parent, mais voilà, vous avez conclu votre chronique là-dessus, parce que bon, moi, ils sont petits, donc... Mais il m'est arrivé de dire à des parents, par exemple, vous avez le droit de pas aimer qui je suis, vous avez le droit de pas aimer ma manière d'enseigner, mais là, pendant cette année scolaire, il va falloir qu'on se donne la main. Que vous le vouliez ou non, du septembre à juin, on va être ensemble. Et il faut pas un seul moment que votre enfant pense que nous ne sommes pas ensemble, puisque là, on l'a perdu. Donc oui, complètement d'accord avec ce que vous disiez, mais avec cette collaboration nécessaire.
Et c'est l'un des facteurs de la réussite des élèves, bien
tout
évidemment. Guillemette Fort.
Nous, on nous a beaucoup parlé aussi des rendez-vous parents-profs, en nous disant que les parents qui ne sont pas des parents-profs ont très facilement tendance à venir jouer les avocats de leurs enfants quand ils entendent des choses qui ne sont pas les choses qu'ils avaient envie d'entendre. Et ce que me disait une enseignante, c'est nous, quand on est enseignant, on ne lit pas la valeur de notre enfant à ses résultats scolaires, donc on ne se sent pas remis en question si on critique notre enfant pour quelque chose qui s'est passé à l'école. Et donc, effectivement, être capable d'entendre les choses sans se dire qu'il faut absolument défendre son enfant et le faire remonter dans l'estime du prof, c'est pas la bonne voie.
Alors après, c'est pas très confortable d'être prof et parent. Parce que quand on va voir la maîtresse pour dire, elle peut le prendre mal en pensant que c'est une collègue qui critique son travail. Ouais. Donc, en général, on est très, très en retrait. Oui. On prend l'enfant et on part vite et on pose pas de questions. Voilà, donc.
L'ordonnance philosophique de Thibaut de Saint-Maurice à voir en vidéo sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse.